Bien, alors bon, on va continuer à travers, enfin, de poursuivre l'étude de la présentation du livre d'Eva Thomas, donc le sang des mots. Et là, parler un certain nombre de personnes font des tentatives de suicide ou carrément se suicident, mais il y a aussi se tuer, mais aussi tuer le père. Mmh. Alors là, tu développes bien cet aspect-là et tu parles d'hypnose paternelle.
Oui, et puis en même temps, par rapport à tuer le père, moi j'ai eu plusieurs fois au téléphone à l'association des jeunes filles qui criaient qu'elles allaient tuer leur père, etc. Et tout. Et je pensais que c'était très bien. Donc chaque fois que moi je les avais au bout du fil, je leur disais bravo, vous avez raison, ne le tuez pas parce que bon, ça vous irez en prison, etc. Mais cette rage que vous sentez en vous, c'est votre vie. C'est ça qui est important. La haine, c'est normal quand on a vécu une chose comme ça. Et je crois que c'est très important que les victimes se parlent entre elles, parce qu'on s'aperçoit qu'on a des... On prend des chemins, on a des processus qui sont les mêmes, et tout d'un coup, on devient normal. Alors que par rapport aux autres, on a des fois des attitudes qui paraissent bizarres ou anormales et tout ça. Et le fait de se rencontrer entre nous, de se parler de ce qu'on vit, tout d'un coup... Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez.
Oui, d'où
vous.
L'importance des associations d'entraide, quoi.
Parce que là, on voit qu'on a des processus qui sont communs, et c'est des processus de survie, où on se retrouve les unes les autres en faisant des choses semblables.
Mais par exemple, toi, tu as eu un processus de survie, c'était de fabriquer une poupée, une momie, et tu lui avais coupé le ventre.
Oui, alors moi, avant de pouvoir arriver à l'écriture, j'ai peint d'abord des grandes formes rouges, très bizarres, pendant des nuits entières, etc. Et puis après, je suis arrivée à mettre en scène des cauchemars, parce qu'il y a eu toute une période où je faisais des cauchemars toutes les nuits. J'arrivais pas à m'endormir le soir parce que j'avais peur des cauchemars que j'allais faire. Et en fait, j'ai fabriqué des poupées aussi grandes que moi et je mettais en scène les cauchemars que je voyais la nuit. Et effectivement, j'ai labouré de coups de couteau des poupées. Enfin, j'ai fait des choses toute seule dans mon appartement, dans une chambre spéciale et tout ça. Et puis, un jour, j'ai remonté de la cave. C'est une de ces poupées-là, je l'ai couverte de peinture à plafond, donc c'est comme une grande statue blanche. Et en fait, mon livre, je l'ai écrit sur le corps de la poupée. Parce que tout d'un coup, l'écriture a jailli et toute mon histoire est venue en écriture
ça,
sur le corps de la poupée.
Ça, c'était le viol du silence.
Oui, je parle du viol du silence. Et après, bah, tranquillement, si on veut dire, oui. Pendant 3 ans, j'ai écrit régulièrement tous les week-ends, en lisant beaucoup, etc., en me posant des cadres. J'ai écrit ce livre qui était vraiment un cri, mais ce qui m'a sauvée. Quoi.
C'était aussi un exorcisme.
Oui.
Alors, si on n'a pas tout ce matériel, la peinture pour plafond, la cave, la chambre spéciale, à Paris, on est moins bien logique à Grenoble sur ça.
Oui, je pense.
On peut préconiser la parole, donc d'où les associations aussi d'entraide, qui des lieux de parole.
Ça n'exclut rien, de toute façon.
Non, je plaisantais.
On peut s'aider.
C'était une blague. Oui, bien sûr, on peut s'aider de tout ce qu'on trouve pour s'aider, mais l'écriture ou sortir de l'isolement, en fait.
Oui,
et savoir qu'il n'y a pas qu'à soi que ça est arrivé, qu'on n'est pas folle, qu'on n'est pas malade, qu'on n'est pas...
C'est en ça que ça aide de
sortir de l'isolement. Et qu'on est vraiment victime.
Oui. Qu'on est victime et qu'on cherche désespérément à vivre.
Voilà.
Ouais. Et que tous les chemins mènent à la vie.
Et pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, quand les victimes commencent à exprimer la colère, c'est-à-dire quand elles commencent à en sentir, c'est déjà bien. C'est déjà qu'il y a un travail qui a été effectué. Parce que on entend beaucoup ça parmi les gens qui viennent avec qui on fait les groupes de parole, c'est que c'est une étape qui est parfois longue à atteindre
la colère.
Oui. Ouais. Oui. Il faut du temps pour être en colère, pour...
Mais alors, on est d'abord, avant la colère, c'est l'accablement, c'est la
dépression,
le désir de mort, la dépression.
La sidération.
Le fait d'aller mal sans savoir pourquoi, vous êtes d'accord?
Moi, je voudrais juste dire un truc, parce que là, on est en train de dire que les victimes ont des points communs, mais aussi, il y a beaucoup de différences, c'est-à-dire que chaque victime est un cas. Donc, on ne peut pas dire que le processus soit le même pour tout le monde.
Oui, mais elles disent toutes la même chose
oui,
par rapport à l'horreur de ce qu'elles ont subi.
Mais je ne sais pas si c'est difficile à expliquer ce que je veux dire, mais nous, on le voit dans les groupes de parole parce qu'on a des choses en commun, mais
chacune trace
son chemin et sa vie n'est pas...
À sortir.
Oui, tout à fait.
Ah oui, non, c'est d'accord. Voilà.
Oui, heureusement, il y a de l'imagination. Ouais. Enfin, je veux dire que les mécanismes de survie, ça vous emmène à trouver des solutions chacune en fonction de sa propre histoire, du vécu passé et tout ça.
Et alors, les victimes d'inceste qui n'arrivent pas à en parler, donc qui gardent ça enfoui, peuvent répéter ça sur leurs enfants? Parce que tout à l'heure, vous disiez que ça se reproduit de génération, ça peut se reproduire de génération en génération.
Ben nous, en tout cas,
ça peut être inscrit dans une histoire familiale.
Nous, dans l'association, enfin dans le groupe de parole, on n'a pas de victime qui nous ait dit qu'elles avaient reproduit ça.
C'est pas de modèle, pas systématique.
Non, mais parce qu'elles viennent parler. Je parle de celles qui ne peuvent pas parler.
Qui ne parlent pas. Ben, on ne sait pas parce
pour
que.
Je pense que c'est plutôt quelque chose justement qui est lié aux hommes, en fait. Parmi les victimes, les hommes qui ont été victimes de violences sexuelles, alors il y en a qui deviennent agresseurs, une partie qui deviennent agresseurs, une autre partie qui vivent la victimisation comme les femmes, enfin avec des déprimes, des cauchemars, la difficulté de vivre comme nous, mais il y en a une grosse partie qui deviennent agresseurs. Alors que je pense que chez les femmes, enfin d'après tout ce qu'on a eu comme information par les associations, enfin par la nôtre en tout cas, nous on connaît pas de femmes qui soient devenues agresseurs, mais on sait que ça existe. Mais nous, on n'en a pas rencontré.
Des statistiques qui disent, toujours les psys, enfin certains psys qui disent que les victimes féminines donc, ne reproduisent pas systématiquement le processus, mais dans leur famille, c'est leur mari, leur futur, si elles se marient par exemple, c'est le mari qui va le faire.
Elles choisissent. Mais ça, c'est quelquefois un compagnon qui va abuser leur fille.
Voilà, enfin, ça c'est ce que disent certains experts, ils se nomment experts.
Vous allez un peu mettre ça en doute.
Oui, parce que dans les associations, on rencontre des victimes. Et donc, pourquoi nous, on n'en rencontre jamais, quoi?
Bah parce que celles-là, elles ne viennent pas dans les associations. Non,
mais c'est... Oui, en fait, moi, j'en ai rencontré des femmes à qui c'est arrivé.
Nous, on n'en a jamais...
Et là, c'est assez l'horreur, effectivement, parce que...
Bah, pour le dire autrement, de tous les gens qu'on a rencontrés, peu savent si leur mère, puisque c'est ça, a été violée ou pas, mais on a beaucoup, puisqu'on fait aussi des rencontres thématiques qui sont des lieux pour parler, mais plus sous la forme d'un débat ou d'une discussion qui est ouverte, donc on a l'occasion d'aborder ce type de thématique, et notamment sur la place de la mère dans les familles incestueuses. Il y a des gens qui savent que leur mère a été elle-même victime de violences sexuelles. Et puis, il y a des mères qui présentent des effets, des symptômes. Mmh. On peut appeler ça comme ça, d'anciennes victimes de viol.
Ce que moi je veux dire, c'est ce que je veux dénoncer un petit peu.
Donc elles auraient choisi un compagnon agresseur.
Voilà, ce que je veux dénoncer, c'est la trop grande généralité que font certains experts dans leurs livres quand ils disent que les victimes d'inceste, donc les femmes victimes, ne sont pas reproductrices de ce qu'elles ont vécu, mais dans la famille qu'elles vont créer. Soi-disant, ça se produirait. Or, j'aimerais bien savoir d'où ils sortent ces chiffres et d'où surtout ils les prennent. Où vont-ils les prendre? Parce que, on a rencontré quand même par Internet, il y a quelques sites où il y a des victimes, où les victimes parlent. Et si ça se rencontrait, si c'était si fréquent, général ou je sais pas quoi, on le saurait, quoi, je veux dire. Or, moi, c'est que ça me trouble un peu, quoi. Je me pose des questions. Je me dis, mais pourquoi ces gens-là disent ça, quoi? Voilà.
Ça faudrait leur demander.
Ce qui, par contre, arrive est absolument terrible, c'est que quand votre père vous a violé et qu'après il viole vos propres enfants, alors ça, c'est absolument terrible parce que la mère, elle n'a pas su protéger ses enfants de son propre père qui l'avait violé. Et ça, c'est quand même des choses qui arrivent dans certaines familles, quoi.
Bah là, on dit souvent, il est question du rôle ambigu de la mère dans un certain nombre de cas, hein, aussi.
Mais quand elles sont diaboliser. Je pense que elles sont au contraire un peu terrorisées par l'idée que ça peut arriver à leurs enfants. Et en fait, ce qui est difficile, par exemple, et ce qui est aussi un des effets pervers de la prescription, c'est si votre père vous a abusé, vous avez des enfants, et vous êtes obligé de les donner aux grands-parents, alors que vous ne pouvez pas les protéger, quand vous avez été abusé, vous êtes terrorisé à l'idée que votre père recommence sur votre petite fille. Et là, la loi aussi est très difficile. Enfin, je veux dire que les mères ont quelquefois du mal à protéger leurs enfants du grand-père violeur potentiel. Quoi.
Et puis, il y a des mères sous amnésie. Enfin, il y a des mères qui ont développé des mécanismes de défense étant enfant pour se protéger, pour survivre d'amnésie, qui ne se souviennent pas, qui, comme toutes les autres victimes, vont pas bien, sont enfin des dépressions, et qui reconfient leurs enfants à leur donc aux grands-parents des enfants, c'est-à-dire aux pères violeurs, mais voilà, sans se souvenir qu'elles ont été elles-mêmes violées par ce père. Enfin,
ça a l'air incroyable ce que dit Dorothée, mais c'est vrai, quoi. C'est très difficile à faire comprendre aux gens le fait d'être dans l'amnésie. C'est ce qu'on appelle, on dit aussi que ça s'appelle du déni inconscient. Et ça, c'est très difficile à faire toucher du doigt aux personnes qui nous écoutent, et qui n'ont pas vécu ça. C'est un peu comme moi, ça me fait, tout à l'heure avant l'émission, on discutait avec Eva et Dorothée. C'est un peu comme les gens de la Shoah, quand ils sont sortis de la Shoah, personne ne pouvait
les
croire.
Non, mais ils ne pouvaient pas parler.
Ils ne pouvaient pas parler. Voilà.
Et puis quand ils parlaient, on ne les croyait pas.
Et on ne les croyait pas. Parce qu'il y a aussi ce phénomène-là qui fait que.
Sidération.
Ouais, et aussi le fait de savoir qu'on ne va pas vous croire.
Et voilà oui. Je trouve qu'il ne faut pas surculpabiliser les mères, c'est-à-dire bien sûr il y a les mères,
non,
mais surtout
non,
pas
non,
le fond.
Non, mais on peut dire que ça existe
oui,
aussi
sûr,
à cause
existe, oui.
du symptôme d'amnésie et tout ça.
Voilà. Alors il y a aussi d'autre part des mères qui, là récemment j'en ai rencontré une, qui peuvent faire de la tôle pour non-présentation oui. des enfants au père violeur, mais qui n'a pas été reconnu comme tel, ou l'affaire est déclassée non-lieu, etc. Et la mère veut continuer à protéger ses enfants, refuse donc la garde alternée ou des choses comme ça. Et il y en a qui ont fait de prison pour ça. Il y a une association
oui, collectif
des mères, oui. Que j'ai reçu il n'y a pas très très longtemps. Ça aussi, c'est absolument dramatique. Et ça rejoint le déni... qui vous a fait écrire le deuxième
livre. Oui. C'est-à-dire que dès que la loi se retourne contre nous, je pense que les juges ne se rendent pas compte à quel point la loi, c'est la foudre.
C'est la double peine.
Oui, pour une victime d'inceste, quand elle se retourne contre elle et non contre le violeur, c'est d'une violence incroyable. Et je veux dire que
après, c'est une mise à mort.
Oui, c'est ça. Et si la victime,
c'est ce que tu développes dans le livre.
Se tue après, elle ne fait que exécuter quelque chose qu'on a fait sur elle, quoi. Et en fait, un des arguments, moi, que j'utilisais beaucoup avec les victimes par rapport à la peur ou la tentation du suicide, je disais, mais attendez, si vous vous suicidez, vous achevez le travail que votre père a fait.
Exactement.
C'est pas possible. Il faut résister, rester vivant. Eh bien, c'est prouver qu'on est plus forte que le travail de mort qu'il a fait sur nous. Donc, cette espèce de besoin de résister, quoi. Il faut
résister,
être une résistante.
Essayer de vivre une vie...
Oui, quand même, et de la vivre bien, en plus. Oui. Et en fait, chaque moment de bonheur vécu, c'est une victoire sur ce travail de mort et de destruction qui a été fait par le père. Et je crois que dans les associations, on s'encourage beaucoup les unes les autres en parlant comme ça, quoi.
C'est exactement. Je voudrais juste ajouter un mot sur ce que c'est ça, c'est faire comprendre. Nous, entre nous, on essaye de se faire comprendre que la dignité, nous, on est digne et que c'est les autres qui sont indignes, c'est-à-dire les perpétrateurs, et que c'est pas l'inverse, parce que souvent on a la culpabilité, la honte, etc. On dit qu'on est indigne, qu'on est un sous-être humain, enfin des trucs comme ça, quoi. Et donc il faut, c'est ça, c'est ce que disait Eva, quoi. C'est mais parce qu'il y a des mots forts comme ça, il faut les employer, quoi.
J'avais une idée. Ah oui, alors maintenant, je voudrais qu'on aborde le problème de la psychanalyse, parce que le travail de Freud, qui a été repris par Dolto, la théorie freudienne de la séduction infantile, c'est ça, hein,
oui.
Hein, qui a quand même fait beaucoup de ravages et qui continue, même si tous les psychanalystes...
heureusement, se sont posé des questions, oui.
Voilà.
En fait, moi, j'ai
ça,
eu...
Je développe,
longuement, ce livre. J'ai eu la chance de rencontrer Marie Balmary, son livre, L'homme au statut,
qui a préfacé
mon livre, oui. En fait, je l'ai rencontrée au moment où j'écrivais Le viol du silence. Elle est psychanalyste, elle a écrit un livre qui est comme un policier pour essayer de comprendre pourquoi Freud a abandonné la théorie, sa première théorie, où il écoutait les victimes d'inceste qui disaient qu'elles étaient abusées par leur oncle, leur père, etc. Et en fait, à la mort de son propre père, à la mort du père de Freud, Freud a changé de théorie et il a inventé la théorie de la séduction, du complexe d'Édipe, etc., qui reportait la culpabilité sur l'enfant et non sur le père. Et en fait, Marie Balmary explique très très bien dans ce livre pourquoi il a fait ça par rapport à sa propre histoire. Et donc, moi, ce livre, ça a été une révélation. Je me suis dit, bon, donc, je peux me croire. Parce que moi, je n'avais rencontré que des psys qui me disaient que j'avais rêvé, ou bien pire, dans les années 80, que j'avais le droit de coucher avec mon père, que des choses complètement perverses, quoi. Et c'est pour ça que je me suis mise à peindre, à faire des poupées toute seule dans mon coin, parce que j'avais trouvé aucune aide nulle part, quoi. Et en fait, d'essayer de vous persuader que vous rêvez, alors là, vous devenez complètement folle. Si vous avez en face de vous un psy qui essaye de vous dire que vous fantasmez, etc., et que vous essayez de dire mais oui, mon père m'a violée, et que lui il vous renvoie au fantasme, là c'est vraiment la fabrique de la folie. Et dans les années 86, quand j'ai commencé moi à faire des débats publics, etc., eh bien on a oublié ça, mais tous les débats publics de cette époque s'appelaient inceste, fantasme ou réalité, tout le temps. Et en fait, moi je me suis sauvée parce qu'un jour, je me suis trouvée encadrée par quelqu'un de la police et quelqu'un de la justice. Je me faisais souvent agresser. Et ce jour-là, donc, il y a un monsieur qui a dit « J'en ai marre d'entendre Eva Thomas parler du criminel. Est-ce qu'elle ne peut pas dire le père comme tout le monde ?» Et à ce moment-là, la dame de la brigade des mineurs qui était à côté de moi a dit « Monsieur, Madame Thomas utilise le terme juste et je suis là pour vous le rappeler. C'est un crime, point. » Et à ce moment-là, je me suis dit, youpi, je ne parle plus qu'entre cadrés de la police et de la justice. Et à partir de ce moment-là, je n'ai plus jamais été agressée dans les débats publics. Parce que tout d'un coup, ma parole était dans le cadre de la loi. Tout d'un coup, ce que je disais, c'était vraiment un crime. Et donc, quand j'ai compris tout comment ça fonctionnait, toute cette force-là, vous n'allez pas me croire, mais en fait, il a fallu que je fasse tout ce trajet-là pour vraiment intégrer, moi, que j'avais été victime d'un crime. Il a fallu que je rencontre des juges, des policiers qui me le disent presque en public, etc. Parce que je le savais intellectuellement, mais je ne l'avais pas intégré, même après avoir écrit « Viol du silence ».
Ceci dit, ça a quand même été aussi le travail des associations féministes que de faire reconnaître le viol comme un crime.
Tout à fait, oui.
Bon, l'inceste, bien sûr, mais le viol, même en dehors de l'inceste.
Oui, mais c'est pour vous dire qu'à cette époque-là, en fait, c'était difficile d'en parler comme d'un crime.
Et oui, puis touchait à la sainte famille patriarcale, le père, la loi du père.
Oui, et puis la théorie freudienne, c'était la théorie idéale. C'est-à-dire que c'est une théorie de camouflage, complètement idéale. C'est-à-dire que là, on est vraiment piégé complètement.
Mais là, on revient encore avec cette idéologie. Oui. Ah non, elle revient là, en force.
En force, oui, peut-être.
Ah oui, avec des associations comme SOS Papa, etc.
Non, mais que...
Le poids des églises aussi, de toutes les religions, qui revient avec, en ce moment, bonjour, aussi bien du côté de Popol II que des imams.
C'est sûr.
Non, mais c'est vrai.
Tout à fait.
Donc tout ça, c'est à reconstruire et...
Alors, il y a beaucoup de victimes aussi, quand même, qui se reconstruisent grâce, par le travail qu'elles font en thérapie.
Oui. Bon, c'est, ça, il faut le dire.
Il faut le dire aussi.
Parce qu'heureusement, il y a vraiment...
C'est-à-dire à qui ça sauve la vie, quoi, pour le dire
il y a vraiment des
plus clairement. Il y a des thérapeutes formidables. Il y a toujours des gens qui continuent de réorienter les victimes sur leurs fantasmes, ça c'est le drame.
Moi c'est comme des oubliés ou des boulangers, il y en a qui font du bon pain, d'autres du pain dégueulasse, et c'est tout pareil. Hein.
Mais c'est sûr que c'est plus facile de se reconstruire.
Il n'y a pas de prescription pour ça. Ça que je veux dire, c'est que il n'y a pas de prescription. On peut entamer une thérapie à 60 ans et on peut à 60 ans faire le travail
et le ménage
dans l'intérieur et arriver à vivre. Donc c'est énorme.
C'est quand même scotchant. Enfin, je pense qu'on peut le dire, Eva, sur ton père a écrit une lettre.
Alors moi j'ai eu la chance d'avoir une lettre d'aveu de mon père, ce qui est extrêmement rare, et qui a été parce que
il a demandé pardon.
Oui, mais je pense qu'il a jamais compris ce qu'il a fait, mais il a quand même fait cet acte-là, quoi. Donc,
ça a dû aider à la reconstruction.
C'est-à-dire que oui, moi, à partir de cette lettre-là, j'avais pas encore écrit le viol du silence, mais tout d'un coup, je pouvais plus me dire j'ai rêvé, parce que pour me défendre, je me disais peut-être que c'est pas vrai, peut-être que je l'ai pas vécu, etc. Et à partir du moment où j'avais la lettre de mon père sous les yeux, qui avouait tout, eh bien, je pouvais plus douter de moi, de ma mémoire, etc. Et c'est très important pour continuer à se reconstruire. Parce que je pense qu'on ne peut se reconstruire qu'à partir de la vérité des faits.
Bien sûr.
Pas d'autre chose.
Alors, dans la difficulté aussi de la reconstruction, de la réappropriation de sa mémoire, il y a aussi le cas des victimes qui ont commencé à être violées bébés ou très jeunes, tout petits. Parce que, violer à 15 ans, mais il y a des agresseurs qui violent des tout petits bébés. Et puis bon, ça peut s'arrêter, ne durer que le temps que la personne violée est un bébé, mais ça peut aussi durer des années. Enfin, il y a des tas de...
Et tous les cas de figure.
Mais alors, quand ça arrive tout petit, c'est extrêmement difficile après de... C'est-à-dire, quand ça arrive avant que l'enfant ait des mots, pour le dire, il a aussi après du mal à mettre des mots pour se souvenir.
Et c'est pas Madame Dolto qui aurait pu l'aider.
Non, ça c'est sûr.
C'est sûr.
Hélas.
Mais il y en a d'autres.
Oui.
Il y a d'autres thérapeutes.
Je parle de Dolto parce qu'il en est question dans le livre d'Eva Thomas, Le sang des mots, et on dit toute sa déception par rapport à l'aura qu'elle avait et puis le bon travail qu'elle a fait par ailleurs.
Oui.
Sauf pour ça, parce qu'elle était trop collée à la théorie freudienne aussi. Trop catho aussi,
c'est toute une époque. Enfin, je veux dire que c'est aussi l'expression d'une société à un moment donné. Et je pense que quand même si c'est toujours difficile d'en parler maintenant, enfin, la société, peuple, etc., ils ont évolué par rapport à ça. On peut en parler quand même.
On parle davantage de sexualité de toute façon, qu'elle soit...
Donc il y a une grosse évolution quand même en 50 ans.
Je m'insurge contre l'homosexualité. Moi, je ne supporte pas quand on dit que... Enfin, quand on parle de sexualité avec l'inceste, parce qu'il ne s'agit pas de sexualité.
Bah, pour le père, si.
Moi ça me choque terriblement. C'est pas de la sexualité.
Bien sûr, c'est une perversion sexualité. Mais ça passe par le sexe quand même.
Ben oui.
Hélas.
Oui, d'accord. Mais
c'est ça que je voulais dire.
Oui.
Bon, ben peut-être que. Il faudrait parler de l'association Arevi, peut-être donner le site.
Oui, alors, c'est une association loi 1901 qui existe depuis un an maintenant. Et donc, nous faisons des groupes de parole une fois par semaine. Donc, pour savoir quel jour nous faisons
Paris.
Oui, c'est à Paris, on est sur Paris même. En ce moment, on déménage souvent de salle. Donc, normalement, à partir du 1er avril, on va avoir une salle fixe. Mais là, pour savoir quelle salle on a, on change de jour en ce moment aussi, parce que c'est un peu compliqué avec la salle qu'on n'a pas, comment on déménage, etc. Mais donc,
tu renvoies au site.
Pour savoir qu'est-ce qu'on fait exactement, il faut aller sur notre site, qui s'appelle donc inceste.arevi.org, avec 3W devant.
Arevi, c'est A-R-E-V-I.
Oui,
Arevi. On peut le redire,
Action, recherche et échange entre victimes de l'inceste. Et notre email, c'est arevi@arevi.org. Voilà.
Ah bah c'est facile.
Facile à retenir. Voilà.
Et donc, on l'a dit tout à l'heure. On peut donner le téléphone, c'est ça?
Voilà.
Alors, notre téléphone.
Ah oui, c'est
Arevi,
important quand même.
Oui,
tout le monde n'est pas outillé.
Non, non. Voilà. Le téléphone d'Arevi est le 06 84 01 06 26. Voilà. Et c'est une association qui. D'entraide entre victimes d'inceste et donc le but est d'essayer de nous sortir de notre isolement, d'échanger nos points de vue. Et donc on est très attachés, on organise des groupes de parole à Paris et on est aussi très attachés, c'est ce qui fait notre spécificité, au volet action-recherche. C'est-à-dire, on part de... Oui, c'est anonyme, libre et gratuit, les groupes de parole.
Anonyme, oui, c'est anonyme, parce que ça pourrait faire peur.
Non, bien sûr, c'est tout ce qui est dit est confidentiel, c'est gratuit aussi, c'est important. Il n'y a pas besoin d'être adhérent de l'association pour participer aux activités qu'on organise. Et le juste pour dire un mot du volet action-recherche, c'est qu'on part du principe que on a un savoir sur l'inceste que n'ont pas les thérapeutes, que n'ont pas les psys, que n'ont pas les juristes, que n'ont pas les médecins. On a le savoir qu'ont les victimes. Et on pense d'une certaine façon qu'on peut se positionner comme expert, en tout cas, qu'on peut faire valoir notre parole, et donc d'où les débats et les discussions qu'on organise aussi une fois par mois pour débattre de thématiques, justement le rapport à la mort, le rapport à la généalogie,
porter plainte
porter plainte par la justice, tout ça. et que cette matière, qui est faite donc de la parole des victimes, elle, on peut l'éditer, la publier, ça peut en faire des plaquettes qu'on diffuse après de la façon dont on diffuse habituellement ce et type
pour,
de matériaux.
Et pour les victimes, c'est très important que leur parole soit connue. Il y en a beaucoup, oui. Ça, dans le livre, tu le dis, mais vous le direz, parce qu'il y en a qui ne peuvent pas le dire directement, mais vous le direz.
On sert souvent de porte-parole dans les associations. Je pense que oui, parce qu'il y en a qui n'osent pas prendre la parole en public, etc. Et c'est sûr qu'à ce moment-là, on devient vraiment le porte-parole. Et c'est très important parce qu'on crée du lien social, même à travers notre propre parole, la leur passe. Et c'est ça qu'il faut, il faut arriver absolument à les réinsérer dans la société, à se réinsérer dans la société. Et donc, et moi, je vais donner le téléphone de SOS Incest à Grenoble. Donc, c'est 04 76 47 90 93.
Tu ne veux pas annoncer samedi, ce qui se passe ?
Oui, en fait, samedi, le 27 mars à Grenoble, donc il y a une journée de recherche que j'avais instituée, moi, il y a longtemps, et qui a toujours existé tous les ans. C'est-à-dire c'est une journée où se rencontrent à la fois des victimes et des professionnels sur un thème particulier. Et là, on discute à égalité entre professionnels et victimes d'un sujet. Et là, ça va être sur les silences de la loi, avec Marie-Pierre Porchy, qui a écrit... le livre qui s'appelle justement Les silences de la loi, et on va essayer de chercher à plusieurs associations comment travailler ensemble, trouver des objectifs communs pour faire encore évoluer la loi.
Élaborer de nouveaux outils pour faciliter les procédures.
Oui, parce que ce qu'on a peut-être oublié de rappeler, parce que là je vois qu'il est presque l'heure, mais il y a juste un truc aussi qu'on n'a peut-être pas dit, c'est qu'il y a le statut des victimes quand on a eu un procès, qu'on a gagné, etc. Il y a un statut, mais pour toutes les personnes qui n'ont pas eu de procès, etc., il n'y a pas de statut. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des victimes qui n'ont pas été en justice, qui sont incapables de travailler socialement, qui ne peuvent pas vivre socialement, quoi. Et qui n'ont pas de revenus, etc., qui ne sont pas reconnues victimes. Donc, elles sont noyées dans la masse. Donc, il n'y a pas de fonds de soutien pour ces victimes, il n'y a rien, quoi. Elles ont droit à rien. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà. Alors bon, on nous dit, oui, mais il y a les CMP, il y a des psys gratuits dans les CMP. Mais enfin, dans les CMP, bon, il y a des psys, mais ils ne sont pas tous forcément adéquats pour ce genre de problème, quoi. Donc voilà, donc, par exemple, quelqu'un qui n'a pas eu le statut de victime, si elle va très très mal, qu'est-ce qu'on fait pour elle ? Pas grand-chose, quoi. Voilà.
De toute façon, il y a beaucoup de travail... à faire. Ça a évolué, mais il y a encore énormément de travail et pour toutes les associations qui existent.
Ouais, tout à fait. Là, il faudrait peut-être remercier Madame Rudevski, c'est ça ?
Françoise Rudevski.
Oui, Françoise Rudevski, qui donc est la présidente de SOS Attentat, qui a fait beaucoup évoluer la loi sur les victimes.
Oui.
Oui, qui a fait
un sacré boulot.
Et elle a fait aussi un fonds d'aide aux victimes, aux victimes de viol.
Voilà.
C'est-à-dire que, par exemple, des victimes d'inceste peuvent s'adresser à ce fonds.
À ce fonds.
Ah oui, mais ça, je ne savais pas. Et c'est pas connu, ça.
Mais parce que les gens... elle vient de sortir un livre, la dame en question, là.
Triple peine.
Triple peine, ça s'appelle. Et donc, elle explique tout ça dans son livre. Et c'est une femme formidable, quoi. Voilà.
Oui.
Eh bien, merci d'être venu nous informer de ce... terrible drame, enfin, quel inceste. Donc je vais rappeler le livre d'Eva Thomas, Le sang des mots, qui est vraiment passionnant, et puis faut le lire, vraiment faut le lire. Il est tout à fait étonnant, les passages lyriques, et puis les passages explicatifs, rationnels, quoi. On passe tout le temps de l'irrationnel au rationnel, et c'est vraiment superbe. Donc c'est Le sang des mots, les victimes de l'inceste et de la loi, avec une préface de Marie Balmary, et c'est chez Desclée de Brouwer, et l'association Arévi.
Donc c'est www.inceste.arevi.org et l'email arevi@arevi.org.
Voilà. Merci d'être venu, puis bon courage pour la suite du combat, que la lutte continue.
Et oui.